Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kémis.
C'est parti ! Vous les connaissez déjà, les 120 jours de Sodome. Vous les avez lus sans avoir pu tenir jusqu'à la fin. Et sachez que moi, j'en suis à la 121e journée. C'est ainsi que la Québécoise Nelly Arcan, suicidée à l'âge de 36 ans, envoyait son manuscrit de Putain aux éditions du Seuil. Alors qui sont ces autrices que la morale réprouve ? Pourquoi est-ce qu'on en connaît si peu ? Y a-t-il autre chose que 50 nuances de Grey à lire d'une seule main ? Cette semaine, on va parler de littérature érotique, d'obscénité, de concupiscence et de celles qui la font, cette littérature érotique. Mais d'abord, on est avec Kémis. Salut, est-ce que ça va ?
Ça va et toi, Clem ? Je voulais juste rappeler que Nelly Arcan a fait l'objet d'un colloque international il y a peu. Et c'est une manière, en fait, de reconnaître la valeur littéraire et politique de son travail qui est centré sur la question sexuelle.
Sinon, comment tu vas ? Tu fais bien de le souligner. Écoute, ça va. Je viens de faire un article dans le journal Cosette sur l'amitié à l'heure des réseaux sociaux. Donc, gros dossier.
Trop bien.
Donc, voilà, ça parle du flicage, du ghosting, etc. Voilà, achetez-le. C'est un poste non-sponsor. Et alors, pour parler un petit peu des news féministes de la semaine, il y en a beaucoup et peut-être que vous l'avez vu passer. Au Chili, les féministes du collectif L'Asthésis ont un hymne et une chorégraphie qui a fait le tour du monde. Donc les paroles, c'est El Violador Eres Tú, un hymne entraînant. Vous pouvez faire la choré chez vous. Et d'ailleurs, il y a eu un flash mob, notamment à Paris, devant la Tour Eiffel. Donc bien joué aux féministes chiliennes. Parler un petit peu du thème de la semaine, Violette Leduc, Marguerite Duras, Virginie Despentes et d'autres ont abordé la sensualité et les imaginaires sexuels dans leurs œuvres. D'ailleurs, leur parcours raconte aussi l'histoire des femmes dans le milieu de l'édition, qui a été souvent des parcours semés d'interdictions et d'embûches. Donc on va voir aujourd'hui qui a été oublié et ce qui nous émoustille ces temps-ci. Et donc d'abord, pour circonscrire un petit peu le champ auquel on s'intéresse, qu'est-ce qu'on entend par érotisme en littérature ? Est-ce que c'est une catégorie ? Est-ce que c'est une question de style ? Est-ce que c'est un rayon qui est caché dans les bibliothèques et dans les librairies ?
Bah, c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe au regard de l'étendue des espaces qui est visée ici. Une manière peut-être de se rapprocher de ce que serait l'érotisme, ce serait de le définir par ce qu'il n'est pas, en fait. Dit autrement, par ce à quoi il est classiquement opposé, soit la vulgarité, le vulgaire, ou voire même le porno. Pour exemplifier cette opposition, on peut citer le propos d'un philosophe français qui est connu aussi pour ses écrits sur ce qu'il nomme lui-même l'érotique, qui est donc Georges Bataille. Donc, qu'est-ce que nous dit Georges Bataille ? Il nous dit, je cite donc, « Bien sûr, scène et obscène n'ont pas la même étymologie, mais le rapprochement est tentant. Car dès qu'il y a scène, il y a regard et distance, jeu et altérité. » En revanche, lorsqu'on est dans l'obscénité, par exemple, on prend le pornographique, il est clair qu'on a là le corps tout entier réalisé. Les corps, les organes sexuels, l'acte sexuel sont brutalement, immédiatement donnés à voir, c'est-à-dire absorbés ou résorbés du même coup. Alors que dans l'érotisme, contrairement à l'obscénité, la sexualité a toujours, la séduction également, une dimension métaphorique. À travers ce bref passage, il me semble qu'on peut percevoir une chose qui est centrale par rapport à ce qui est dit comme érotique, c'est que c'est un jugement, c'est une catégorie, et ça n'existe parce que autre chose est perçue comme non érotique. Et c'est important en fait parce que dès lors qu'on reconnaît la catégorie érotique comme une catégorie relationnelle, c'est-à-dire qui fonctionne en contrepoint d'autres catégories, on va pouvoir élargir notre réflexion. Qui érotise ? Qui quoi est érotisé ? Comment érotise-t-on ? À quelle fin ? Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, du regard masculin, du regard féminin, du corps féminin, de la relation sujet-objet ? Ou encore, est-ce que l'érotisme est une catégorie qui est utile, qui est pertinente, notamment dans le champ des luttes féministes intersectionnelles ?
Alors, beaucoup de pistes à explorer, mais d'abord un petit peu d'histoire, parce qu'on connaît les écrits licencieux de Sade, mais aussi de Sacher Masoch, donc initial SM, donc l'auteur de La Vénus à la fourrure. On connaît L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, la poésie sulfureuse des surréalistes, la peinture tourmentée et orgiaque des romantiques. Mais c'est vrai qu'on connaît moins les femmes qui écrivent sur l'érotisme, parce qu'elles ont été souvent anonymes et souvent réprouvées. Donc il y a la poétesse Sappho dans la Grèce antique. Je pense qu'on peut aussi citer la littérature libertine à partir du XVIe siècle, notamment avec la poétesse Louise Labbé, qui écrit à demi-mot en métaphore. Et en fait, lorsqu'elle va publier ses sonnets en 1555, le très austère théologien Calvin va la surnommer la putain de bas étage.
Ah, rien que ça.
Donc déjà, ça commence bien. Ouais. Je vais en lire un petit extrait. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Donc baise égale embrasser, hein. Calmons-nous. Mais en tout cas, voilà, c'est presque aussi bien et aussi fleuri que la chanteuse Colette Renard qu'on écoute.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la place de ces femmes au regard de l'histoire et de l'histoire littéraire et artistique ?
C'est difficile de dresser une fresque exhaustive de l'histoire de cette catégorie de jugement qu'est l'érotisme, mais on peut quand même préciser quelques éléments. Peut-être tout d'abord souligner la proximité qui existe entre l'érotisme et les mondes des arts, peinture, poésie, sculpture, littérature, musique, etc. Et cette relation entre l'érotique et l'artistique, c'est une relation de sublimation sociale, c'est-à-dire que les artistes, et des artistes qu'on peut situer précisément, hein, donc des artistes, comme vous en doutez, plutôt masculins, bourgeois et blancs...
Quelle surprise!
...vont œuvrer à déployer un imaginaire, des représentations et des procédures d'élaboration de modes de jouissance sexuelle. Donc l'histoire de ce qu'on appelle alors érotisme, et d'un point de vue critique et féministe, c'est l'histoire des pratiques majoritairement masculines et bourgeoises par lesquelles on a produit, on a fabriqué un corps féminin chargé de la fonction de faire jouir. L'exploration des modalités d'investissement et de célébration du corps, et en vérité de certains corps, remonte donc des peintures découvertes sur les murs des cavernes préhistoriques au travail de Nelly Arcand. Mais Clémentine, toi, tu as des éléments précis à nous donner quant à cette histoire ?
Oui, alors effectivement, les femmes qui ont écrit sur la sexualité et sur l'érotisme, en fait, on se rend compte qu'elles ont souvent, les rares fois où elles ont eu du succès, en tout cas, c'était en étant chapeautées ou grâce à un compagnonnage artistique ou amoureux, donc souvent par la protection du mariage, hein, on va pas se mentir, avec un conjoint. Donc on peut prendre l'exemple de Rachilde, je sais pas si tu connais cette autrice.
Non, pas du tout.
Donc qui vivait à la fin du 19e siècle, qui demandait à la préfecture de pouvoir s'habiller en homme. En fait, elle a épousé Alfred Valette, et tous les deux, ils se sont occupés ensemble de la revue Mercure de France. Donc elle tenait un salon où toute la bonne société se pressait, et elle écrivait en même temps des histoires fantastiques, puisque c'était l'époque, et des histoires macabres, notamment zoophiles ou incestueuses.
Sympa.
Comme la marquise de Sade, donc trop bien, la version féminine. Et elle a aussi écrit un livre sur un homme-objet qui s'appelle Monsieur Vénus. Voilà, c'est assez génial.
On peut aussi parler d'Anaïs Nin, qui est la plus connue et qui est aujourd'hui connue pour ses écrits sulfureux, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Donc en 1941, en fait, t'as un type qui demande à Henry Miller, qui est son amant, de lui écrire des petites histoires crues pour $1. Puis il le fait, et puis quand il part en voyage, il demande en fait à Anaïs Nin de le remplacer, et elle le fait à sa place. Donc elle s'inspire du Kama Sutra, elle s'inspire des aventures de ses proches, et c'est seulement quand elle fête ses 72 ans qu'Anaïs Nin accepte enfin la publication de Vénus Erotica. Elle dira « J'ai finalement décidé de publier ces textes érotiques parce qu'ils représentent les efforts premiers d'une femme pour parler d'un domaine qui avait été jusqu'alors réservé aux hommes. »
Alors, il y a un château aussi dans lequel on dresse bien les femmes. C'est Histoire d'eau de Pauline Réage, qui était le pseudonyme de Dominique Horry, qui était le pseudonyme de Anne Desclos. Voilà, vous suivez.
Je pourrais dire, comme beaucoup d'amants, que c'est parce que j'aimerais vous voir avec une autre femme. Mais ce ne serait pas la vraie raison.
Donc c'est un texte qu'elle avait écrit pour son amant Jean Paulhan. donc un récit chaud comme la braise, qui va être édité par Pauvert, donc l'éditeur de Sad. Et Pauline Réage va en fait recevoir le prix des deux magots, donc ce qui n'est pas rien. Elle va connaître un vrai succès critique, puis évidemment l'interdiction pour outrage aux bonnes mœurs de son livre en 1955, et elle va échapper de justesse au procès. Et quelqu'un qu'on connaît mieux, évidemment aujourd'hui, c'est Colette, ouais. Donc, qui était à ses débuts prête-plume de son mari, donc le journaliste Willy. Et heureusement qu'elle est beaucoup plus connue que lui aujourd'hui et que lui est complètement tombé dans l'oubli.
J'allais dire, c'est qui Willy ?
I mean, he could be walking down the street. I wouldn't know a thing. Sorry to this man.
Ouais, c'est ça. Et bah, voilà, c'est QFD. Un peu de justice.
Ouais.
Donc, elle va publier sa série des Claudines, qui va vraiment déclencher la colère du premier congrès national français contre la pornographie qui va avoir lieu en 1905.
Ouais.
Et ensuite, elle va publier des textes vraiment plus explicites, comme L'ingénue libertine, L'envers du music hall ou Ses plaisirs, dans lesquels elle va parler assez librement de la jouissance, mais aussi de son homosexualité.
Donc la première éditrice féministe, c'est Régine Desforges, que l'on connaît surtout pour sa saga La bicyclette bleue.
Oui.
Promisez-moi. En 1969, 20 de ses livres édités ont été interdits. On parlait de la papesse de l'érotisme, j'ai envie de dire meilleur titre.
C'est clair.
Gabrielle Wickop ou René Vivien, surnommée la Sappho 1900.
Life goal.
Et découvre Hervé Guibert, la classe. Donc son apport est inestimable.
Ouais, effectivement. Merci Régine Desforges. Plus proche de nous, aux États-Unis, il y a aussi Mary Gateskill. Peut-être que vous avez vu le film qui a été adapté d'une de ses nouvelles. Ouais, The Secretary, donc la secrétaire, avec Maggie Gyllenhaal, qui joue une jeune étudiante et puis une jeune professionnelle qui va en fait se faire fouetter et sadiser par son patron lorsqu'elle va commettre des erreurs de secrétariat.
Come into my office.
Voilà, c'est une histoire...
Finalement, en fait, c'est un peu du harcèlement sexuel, mais bon...
C'est ça. C'est une histoire hyper malaisante de rapport de pouvoir et de domination.
C'est clair.
Et Mary Gateskill, elle est très, très connue, en fait, aux États-Unis. Et elle-même a mené une vie assez romanesque, puisqu'elle a été fugueuse quand elle était adolescente. Ensuite, elle a été stripteaseuse à New York pendant qu'elle écrivait ses romans. Et en fait, elle a expliqué ensuite que son viol à l'âge de 16 ans avait vraiment été une catalyse pour son écriture. Et donc, elle a écrit notamment un recueil de nouvelles qui est très connu, qui s'appelle Bad Behavior, qui est particulièrement transgressif et que je vous recommande. Voilà. Mais si on veut parler un petit peu d'une perspective plutôt postcoloniale, on voit aussi comment un certain regard érotique s'est construit et comment tous les corps féminins ne sont pas logés à la même enseigne, n'est-ce pas, Kémis ?
Tout à fait. Si on continue d'essayer de saisir ce qui se cache dans cette représentation spécifique du corps et la manière dont l'érotisation a aussi à voir avec une esthétisation de l'inégalité et de la violence, on pense inéluctablement à la relation qui unit érotisme et exotisme, évidemment. On pourrait dire ici que l'exotisme, c'est la forme racisée ou plutôt racialisée d'une domination sexuelle qui, pour être tolérée, pour être légitimée et naturalisée, va se draper des atours du plaisir, de la jouissance et, bien sûr, entre guillemets, du consentement. Ce qui veut dire que l'érotisme est une catégorie de jugement, comme nous le disions avant, qui a connu des usages racistes. On peut prendre comme exemple le travail qui a été conduit par le poète algérien Malek Alula, qui est l'auteur d'un ouvrage titré « Le harem colonial ».
Beau programme.
Image d'un sous-érotisme qui date de 1981 et qui étudie la manière par laquelle le support de la carte postale destiné à voyager et à faire l'objet d'un commerce d'achat, de revente et de collection a participé à construire des types sexuels racialisés se présentant sous la forme d'un érotisme de l'ailleurs, c'est-à-dire une domination des femmes racisées, ce que Malek Alula nomme le sous-érotisme. Dans cette perspective, on peut aller assez loin et on peut notamment considérer les cartes postales du Vanuatu. En effet, l'anthropologue Lamont Lindstrom a, en 2007, analysé la manière dont les cartes postales du Vanuatu ont fonctionné comme des reflets érotisés du discours colonialiste qui oppose le dynamisme occidental au caractère prétendument statique et figé de la société indigène. On pourrait croire que l'on s'éloigne de la littérature érotique à proprement parler, mais en vérité non, parce que l'érotisme n'est pas limitable à un domaine, mais agit bien plus comme un système de pouvoir sur les corps qui n'en a pas l'aspect. Ce qui peut alors attirer notre attention, c'est de considérer que s'il y a pouvoir, il importe d'être attentif et attentive aux stratégies de réappropriation de la catégorie érotique et donc des modalités de présence et de représentation du corps. Et d'ailleurs, à ce propos, Clémentine.
Oui, alors pour parler justement de stratégie de réappropriation de la catégorie érotique, si je te dis les feux secrets du désir, les rendez-vous du plaisir, la brûlure des sens, tu me dis
Harlequin et mon adolescence.
Ah ouais, carrément. Effectivement, c'est le roman Harlequin qui est une collection qui publie pas moins de 700 ouvrages par an. C'est énorme. Même si on y reviendra, c'est un genre qui reste méprisé, considéré comme mineur, voire très aseptisé. L'autrice Camille Emmanuel, qui a écrit Sexpowerment, a elle aussi été ghostwriter pour la collection Harlequin. Et ouais. En fait, elle en a parlé dans un essai qui s'appelle « Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite
». Moi, à 15 ans.
Voilà. Et donc, elle explique, en fait, elle raconte son expérience. Elle dit que, quelle que soit la saga, en fait, la recette ne varie pas d'un iota. Et le but, c'est vraiment de faire consommer à la lectrice le tome suivant. Donc, elle dit qu'il y a des personnages figés, qui sont fades, sans nuances, et qu'elle-même, quand elle écrivait, elle devait répertorier dans un tableau Excel des photos de stars qui ressemblaient aux personnages. Donc c'est quand même une drôle de méthode.
Quelle horreur.
Et selon elle, voilà, ces lectures, au lieu d'être inoffensives ou bien même émancipatrices, renforcent vraiment les relations hommes-femmes ultra traditionnelles et une reproduction massive de schémas sexuels et amoureux des années 50. Donc, en fait, des contenus qui sont finalement assez normatifs, voire réactionnaires et sexistes, basés sur des stéréotypes hyper formatés. Elle écrit, je cite, « Cette machine à produire des fantasmes est à mille lieues de l'émancipation et de la modernité. C'est même, selon elle, du Zemmour porn. »
Oh, waouh,
ouais,
ok.
Ça va loin. Alors, je pense qu'on ne peut pas se passer dans cet épisode d'aborder un phénomène ou un sous-phénomène peut-être de la littérature érotique. C'est
50 nuances de Grey.
Ouais.
50 nuances de E.L. James a été publié en 2012. Ça a commencé comme de la fanfiction. Et son immense succès planétaire, y compris au cinéma, a donné une vraie visibilité au genre de la New Romance. Il y a aussi les titres After, Beautiful Bastard, Rush, Tempting Princess, Be Mine.
Vous savez pas franciser les titres ou quoi? C'est quoi ce truc?
Je te jure. Des livres écrits par des autrices pour des lectrices. Et on parle avec mépris de mommy porn.
Ah là là.
En fait, c'est, selon des études, le lectorat a un regard critique et un rapport amour-haine à la saga.
Bah oui, il faut pas prendre les lectrices pour des connes. Hein.
Clairement, d'ailleurs, on en parlait dans le podcast cet été sur les livres de plage. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la saga 50 nuances a été critiquée par la communauté BDSM pour des notions de consentement qui sont très floues dans la saga. Mais paradoxalement, ça a aussi permis au grand public d'aborder ces questions-là.
Oui, donc à vous de voir, à vous de vous en saisir. Et alors, pour citer le chercheur Jean Zaganiaris dans la revue Questions de communication en 2017, lui explique en fait que la littérature érotique est considérée, donc on l'a déjà vu, comme un type de production culturelle délégitimée, qu'une partie des acteurs dominants du champ littéraire, donc éditeurs, libraires, critiques littéraires, organisateurs de festivals, de salons du livre, de prix littéraires, etc., ne considèrent pas comme étant digne de faire partie de la culture légitime. Mais en fait, paradoxalement, cette position périphérique va rendre possible une expression écrite qui est susceptible de remettre en cause les cadres normatifs. Donc en fait, elle va créer des espaces des possibles où les normes de genre peuvent être, parfois, c'est pas toujours le cas, mais peuvent être déconstruites de façon beaucoup plus subversive que dans la littérature qui est définie comme non érotique et qui est souvent contrainte de composer avec les normativités dominantes pour pouvoir justement préserver sa position dans le champ. Est-ce qu'on a des exemples justement peut-être de ces nouvelles formes de littérature érotique?
Bah clairement, il y a la maison d'édition La Musardine et sa librairie dans le 11e à Paris qui essaie justement de remettre tout ça au goût du jour avec des essais comme Oser la bisexualité notamment et des fictions, par exemple Insoumise, un recueil édité par la performeuse Wendy Delorme avec des nouvelles de Wendy Delorme ou encore de l'actrice porno Judy Minx.
Oui, je l'ai lu. Très bon recueil.
Achetez-le. Ah ouais, il est cool. Ouais.
Et alors, si l'égalité vous fait mouiller, vous pouvez lire le recueil qui est en anglais, malheureusement. Si vous voulez traduire, vous pouvez vous en saisir. C'est New Erotica for Feminists, donc la nouvelle littérature érotique pour les féministes. En fait, c'est un recueil satirique collectif qui a été écrit par plusieurs autrices qui s'occupent du site Belladonna. En fait, elles avaient écrit plusieurs textes qui ont été publiés dans un journal littéraire. C'est devenu immédiatement viral, évidemment, donc elles en ont fait un livre. C'est des textes très courts. Par exemple, il y a une personne qui murmure « Il y a 50% de femmes au Parlement
»
en proposant un massage des pieds. Il y a un autre texte dans lequel le plombier sonne à la porte et il dit « Je suis là pour le gros, gros travail pour lequel vous m'avez appelé. Mais je suis en retard car je likais tous les tweets de Malala. Excusez-moi. » Il y a aussi un livreur de pizza qui arrive avec la pizza et il dit « Elle est très, très chaude. » Il dit à la personne qui a commandé la pizza « Bon appétit. Sachez que je ne juge personne sur ce qu'il ou elle mange. Bonne soirée. » Voilà, donc il y a aussi de la fanfiction à propos de Ed Sheeran et de Game of Thrones. Et voilà, c'est vraiment très drôle. Donc lisez-le. Il y a aussi une autre parodie que je recommande qui se trouve dans les pages Wikipédia du magazine Brain qui a été écrite par Jocelyn Borda. C'est du dirty talk féministe, donc des paroles salaces à se dire entre féministes.
J'ai envie de défoncer ton petit plafond de verre.
Oh oui, Kémis. Et moi, ça m'excite quand il me baise en écoutant la poudre.
Insulte-moi avec la voix de Marlène Schiappa.
Quelle horreur. En fait, ça m'excite pas du tout.
Ah, c'est clair, ouais. C'est un turn-off, le truc, quoi.
Bon, alors, pour parler un petit peu de notre expérience avec la littérature érotique... Toi, de ton côté, comment est-ce que tu as connu ça? Est-ce que tu en as consommé de près ou de loin?
Moi, j'avoue que j'ai découvert la littérature érotique de manière un peu honteuse.
Oh non, mais pourquoi?
Bah ouais, mais avec les Harlequins et les J'ai lu pour elle,
Mais il faut pas avoir honte.
Mais finalement, c'est marrant parce que cette consommation, elle a été vachement associée à quelque chose de caché et de honteux. Et en faisant cet épisode, en lisant cet épisode, je me suis rendu compte que Claudine, c'était aussi de la littérature un peu érotique. Mmh, alors ouais. Que, genre, j'ai adoré les Claudine, en fait, les Colette.
Oui, mais c'est vrai que c'était pas forcément présenté comme tel, en fait.
Pas du tout, quoi. En plus, je l'ai trouvé, genre, dans une bibliothèque familiale. Donc, tu vois, je me suis pas dit, genre, oh, c'est, tu vois. Ouais. Enfin, bon, bref. Et du coup, c'est tout récemment que j'ai un peu redécouvert la, entre guillemets, belle littérature érotique, où je me suis plus décomplexée par rapport à mon rapport à la littérature érotique, avec notamment l'anthologie Volcanique dirigée par Léonora Miano.
Toujours elle.
Ouais, toujours elle. Je parle tout le temps d'elle. Avec des textes d'autrices afro-péennes et africaines, comme Emily Boom, par exemple. Et c'est
trop bien.
Trop bien écrit, j'adore. Et toi, du coup, Clem?
Bah alors moi, je sais que pas mal de gens plus jeunes que moi, donc peut-être plutôt de ton âge, ont découvert tout ça sur des blogs ou sur des Tumblr.
Ouais.
Moi, je pense que peut-être comme des gens un peu plus âgés, c'est surtout passé par des vieilles BD rangées dans des placards ou dans des greniers,
ouais,
par des oncles ou des pères ou des potes de la famille. Donc les vieux exemplaires de Harakiri, Gueluron, Fluide Glacial, enfin en fait toute la vieille grivoiserie à la française 70s,
ouais,
libertine un peu pourrie.
Ouais, je vois ça.
Moi, plus précisément, c'était des espèces de mangas japonais hyper chelous mais assez émoustillants.
Ouais.
Et franchement, depuis, je suis grave en demande. Donc, bonjour les maisons d'édition, réveillez-vous. Mmh. Et d'ailleurs, j'étais tellement désespérée que j'ai même lu 9 semaines et demie de Elizabeth McNeil.
Ouais.
Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais.
Je vois le film.
Voilà, ouais. Bah, donc il y a un film, effectivement, une adaptation avec Mickey Rourke et Kim Basinger,
ouais,
qui racontent leur passion torride et SM.
I don't know you. You really don't know me.
I can't figure this guy out.
C'est un film assez problématique pour plusieurs raisons, notamment aussi parce que le cinéaste a insisté pour créer sur le plateau en fait la même atmosphère que dans le film.
Mais c'est le malaise.
Assez horrible. Et en fait, Kim Basinger a dit qu'elle avait été complètement traumatisée par le tournage et que plus jamais, quoi.
Mais donc, c'est trop le malaise, quoi.
Voilà, ouais. Donc encore un artiste qui sadise ses actrices pour l'art.
Pour
voilà.
Soi-disant l'art, ouais.
C'est ça. Mais sinon, moi, j'ai aussi lu 50 nuances, 50 shades, voilà, les plusieurs tomes. J'ai aussi été voir les films un peu en ricanant.
Ouais.
Mais je dois dire que ça a été quand même un point de départ pour rechercher d'autres types de contenus, soit plus féministes, soit plus inclusifs, etc. Donc, voilà.
Ouais.
Alors, on va écouter un témoignage.
L'échange qui suit a été réalisé avec une libraire, Marie, qui travaille au sein de la librairie mulhousienne 47 degrés Nord, en plein centre-ville. Un remerciement chaleureux à Marie qui nous a accordé de son temps un samedi de décembre, quelques semaines avant les fêtes. Donc, merci Marie. Marie nous décrit la manière dont peu à peu, suite aux demandes des lecteurs et des lectrices, un espace dédié à la littérature érotique a été mis en place au sein de la librairie. On écoute.
Alors dans la littérature érotique, j'entends en fait tout ce qui a trait à la sexualité, à la sensualité. Donc nous, dans la librairie, on a eu quand même pas mal de demandes. Donc là, on vient de créer un petit rayon. Mais on a réuni vraiment, enfin pas que ce qu'on appelle littérature. On y a mis aussi de la BD, de la poésie, qui ont trait en fait à ce domaine-là.
D'accord. Et comment la demande, elle s'est manifestée ?
Plusieurs personnes qui nous demandaient en fait si on avait tout simplement de la littérature érotique, mais comme elle était un peu éparse et que chaque fois il fallait qu'on aille chercher les titres à droite à gauche, donc on n'en a pas énormément. On a Pierre Louis, qui est un petit peu le plus connu dans ce domaine-là. Et après diverses petites choses, on a trouvé un livre récent sur les haïku. Voilà, donc on a mis ce genre de choses qui sont un petit peu différentes, le happy sex de Zep.
D'accord. Et vous avez l'impression que ça apporte une plus-value à votre librairie ? Il y a quelque chose là qui se joue par rapport à vos lecteurs, quelque chose
Alors pour l'instant, on n'a pas encore eu le recul par rapport à ça parce qu'on l'a fait il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Mais comme la demande est tout de même là, ce sera plus simple pour voir les aiguiller et puis après étouffer selon les demandes et les désirs des lecteurs.
Et vous diriez que c'est une littérature que vos lecteurs et lectrices recherchent plus spontanément qu'une autre, ou au contraire, vous sentez une certaine gêne quand ils viennent vous en parler ?
Alors, ceux qui demandent n'ont pas de gêne à le demander. Vraiment, ils le demandent naturellement. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ils le disent facilement. Alors maintenant, est-ce qu'il y aurait des personnes qui n'oseraient pas poser la question et qui seraient contents de découvrir sans forcément avoir besoin de poser la question ? C'est là où ça va un petit peu jouer.
D'accord. Et alors, je sais que c'est encore récent, mais il y a une certaine forme de différence entre les hommes, les femmes ? Quelque chose qui vous est apparu spontanément ?
Pour l'instant, non. Après, c'est plus nous, après, dans le questionnement de qu'est-ce qu'on va mettre ou pas dedans. Parce que certains livres qu'on va lire peuvent laisser supposer qu'on pourrait le mettre. Maintenant, est-ce que c'est le cantonné à une case et ça peut être négatif pour le livre ? Enfin, c'est vraiment pour chaque œuvre, la question peut se poser.
Merci à Kaoutar Archi pour cet enregistrement.
Le moment
pop culture.
Pop culture.
Alors dans la pop culture, plutôt que de parler du sempiternel La vie sexuelle de Catherine M. de Catherine Millet, moi je préfère parler d'un livre de Leïla Slimani, c'est Dans le jardin de l'ogre, qui raconte en fait le parcours d'une femme qui a une libido débordante et qui va s'attacher à tromper son mari avec le plus d'hommes possible, sauf qu'évidemment son mari va y voir une pathologie sexuelle au lieu d'y voir peut-être quelque chose de normal. Voilà, je vous recommande le livre. Il y a aussi Passion simple d'Annie Ernaux. Comme vous le savez, j'adore Annie Ernaux, j'en parle à chaque fois que je peux. Et là, elle raconte vraiment dans un très petit livre, très concis, le caractère véritablement obsessionnel d'une passade qu'elle a eue avec un homme. Et donc, elle va tenir le journal de bord des heures qui passent et des moindres petits gestes qui lui rappellent cet homme absent et le désir qui s'inscrit en creux. Mais heureusement, la fiction érotique, ça nous permet aussi de découvrir d'autres voies qui ne sont pas uniquement occidentales. Peut-être tu peux nous en parler.
Donc, en fait, ce qui se passe avec les voix qui sont notamment pas occidentales, c'est qu'on les invisibilise grandement. On a envie, en fait, de faire entrer dans notre réflexion ces écrivaines. Je pense notamment à des écrivaines qui sont nées sur le continent africain, mais aussi celles sur le continent asiatique. Et là, on va parler de l'écrivaine camerounaise Calix Beyala, qui a écrit de nombreux ouvrages. Son récit « Femme nue, femme noire » paru chez Albin Michel en 2003 est un récit justement de littérature érotique, et je vais en citer la quatrième de couverture. « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, ces vers ne font pas partie de mon arsenal linguistique. Vous verrez, mes mots à moi tressautent et cliquettent comme des chaînes, des mots qui détonnent, qui déglinguent, qui dévissent, culbutent, dissèquent, torturent, des mots qui fessent, giflent, cassent et broient. »
Ouh.
Que celui qui se sent mal à l'aise passe sa route. Parce qu'ici, Il n'y aura pas de soutien-gorge en dentelle, de barésie, de petites culottes en soie à prix excessif, de parfums de rose et de gardénia, et encore moins ces approches rituelles de la femme fatale empruntées au film ou à la télévision.
Bah tant mieux, ça nous fera des vacances.
Les premiers vers sont ceux d'un poème illustre de Léopold Sédar Senghor, vers qui célèbre la femme noire que Calix Beyala va prendre à rebours pour affirmer sa propre subjectivité sexuée et sexuelle.
Oui, je pense que c'est aussi important de parler de l'apport de la bande dessinée, qui n'est pas en reste par rapport à la littérature. Et on peut notamment recommander Les Petites Faveurs, qui est un récit graphique lesbien publié aux éditions Glénat, édition qui possède une collection dédiée qui s'appelle Pop Porn. On peut aussi recommander le livre de Camille Emmanuel, dont Pauline Verdusier nous a parlé dans un épisode précédent. C'est Le goût du baiser, un livre pour les adolescents qui est néanmoins assez émoustillant, semble-t-il. Et évidemment, il y a aussi tout un tas d'anthologies. On peut notamment mentionner Eros, anthologie de la littérature érotique de Claudine Brécourt-Villard, alors qui contient beaucoup, beaucoup d'hommes, mais quand même Simone de Beauvoir et Catherine Breillat, et aussi pas mal d'inconnus à découvrir, donc Janine Epli, Marguerite Burnat-Provin, etc., etc. On vous laisse les découvrir. Et alors, qu'est-ce que tu as dans ta besace cette semaine, Kiemis, à nous recommander ?
Alors, je vais parler d'un livre dont on a déjà parlé plusieurs fois.
Et mais c'est pas grave.
C'est pas grave, parce que je pense qu'il nécessite qu'on en parle presque toutes les semaines.
C'est ça.
C'est le livre de Naomi Alderman, Power.
Donc, Le Pouvoir, en français.
Qui est Le Pouvoir. Pour le coup, je le lis en anglais en ce moment. Je vais faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas peut-être entendu les dernières recommandations. Power, en fait, c'est l'histoire d'un jour où les fans se retrouvent avec un super pouvoir, le pouvoir d'électrocuter. Et ce pouvoir est exclusif aux femmes.
Yes.
Et en fait, ça arrive de manière totalement inattendue et ça arrive aux adolescentes qui transmettent ce pouvoir aux femmes plus âgées, qui le font naître ou renaître en elles. Et ça raconte comment l'apparition de ce pouvoir bouleverse la société. C'est un livre qui m'émeut. Enfin, c'est même plus qui m'émeut, c'est qu'il est presque révolutionnaire, ce livre. C'est presque un pamphlet. Tu le lis, t'es électrifié. Enfin, t'es vraiment boosté. Et c'est j'ai même pas envie de dire que c'est de l'empowerment parce que je pense que c'est presque ça lire le livre, quoi. C'est au-delà de ça. C'est un livre qui est révolutionnaire et je le conseille vraiment à toutes les femmes. Et toi, Clem, t'as quoi dans ta besace ?
Alors moi, c'est raccord avec notre épisode, c'est Déesse de Aude Picot aux éditions des Requins Marteaux qui ont une petite collection que j'aime beaucoup qui s'appelle BDQ qui mêle à la fois l'humour et l'érotisme, c'est vraiment hyper bien. Et donc là, c'est un audacieux mélange des genres, donc mythologie et volupté. Et en fait, ça raconte l'histoire de Lilith, donc la première femme, on a tendance à l'oublier, bien avant Ève, qui a été bannie, en fait, et bannie par Adam et par Dieu en raison de son indépendance et de sa libido surdimensionnée.
Ouais.
Et en fait, voilà, ça raconte comment elle continue aujourd'hui à régner dans l'ombre, sur la terre et peut-être sur nos désirs. Voilà, c'est très chouette.
Beaucoup de recommandations BD, ça me donne trop envie d'en lire plein, quoi.
Ouais, bientôt Noël.
Allô, allô.
Allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Cette semaine, une auditrice nous a écrit « Bonjour à toutes, j'avais une question. Où est-ce qu'on peut rencontrer des hommes féministes ?» Alors, Kiemis, tu es notre duègne assignée cette semaine, notre chaperonne. Est-ce que tu peux nous mettre en contact avec des hommes féministes ? Si vous en êtes, vous pouvez nous écrire, contactez-nous.
On va faire du...
Agence matrimoniale.
Agence matrimoniale, ouais. Du coup, malheureusement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des hommes féministes se baladent pas avec un écriteau à la Vulcan, où il y a écrit « Je suis féministe », et d'ailleurs, je me méfierais de ceux qui le feraient.
Ouais, tant mieux en même temps.
Pour rencontrer, je pense, quelqu'un qui s'intéresse aux mêmes choses que toi, qui aurait potentiellement les mêmes valeurs, je dirais peut-être aller aux événements, aux conférences et aux marches et guetter les mecs qui posent pas des questions bidons parce que ceux-là, évite-les comme la peste.
Ouais, mais je pense que ceux qui viennent aux conférences et aux marches, ils viennent parce que à cause de leur meuf.
Ah merde, bah ils ont peut-être des potes, j'en sais rien, des cousins, des frères, voilà. Et puis je pense que c'est important de se dire aussi que même un homme féministe ou qui se dit féministe peut avoir des attitudes ou des comportements sexistes. D'ailleurs parfois même moi en tant qu'afro-femme ça m'arrive alors que voilà je suis féministe. Donc imaginons pour les mecs. Je pense que ce qui est vraiment important en fait c'est d'avoir quelqu'un qui a de l'empathie, qui est capable de se remettre en question et de se faire remettre en question par une femme. Et donc là, tu vois, féministe ou pas, c'est super compliqué à trouver, quoi.
Voilà, bon courage.
Bon courage.
Enjoy, bonne quête. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode, nous suivre sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial où on fera le bilan de l'année 2019 et des prédictions pour l'année 2020.
Pour la prochaine décennie.
Voilà. À bientôt. Kémis, salut, merci.
Ciao, Clem.
Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté par Kiemis,
préparé avec Kaoutar Archi, monté et mixé par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son et coordination Ashley Tola.